Petit coup d'œil. Une sonnerie. Une sonnerie, non? Là, sur les voix, ça vient. Alors, c'est, comme tout le monde sait, c'est la dernière des parchures du Sefer Shemot. Elle est consacrée essentiellement à une forme de bilan, c'est-à-dire, on va annoncer, donner des comptes sur les matériaux qui ont été collectés. Je vous rappelle, les matériaux ont été collectés le lendemain de Kippour, et on en parle dans Parshat Truma. Et puis, on va aussi dire à quoi on a affecté tous ces matériaux. Pourquoi il faut donner des comptes? Parce que c'est toujours, c'est une leçon qu'il faut être très transparent sur les choses. Il y a des midrashim qui disent que les Bnei Israël soupçonnaient Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, bon, ils en manquent jamais une, les Bnei Israël. Oui. Donc, Moshe Rabbeinu était obligé de rendre compte, en quelque sorte, pour être naquis, parce qu'il y a une, il y a un inyan d'être naquis, mais Hachem ou mais Israël. C'est-à-dire, c'est bien de pas être soupçonné et de bien être, de bien se conduire, de bien être compris dans ce qu'on fait, tant par Akadosh Baruch Hu que devant Hachem ou devant les hommes. Alors, même si les hommes sont d'une extrême mauvaise foi, parce que pour aller soupçonner Moshe Rabbeinu, et surtout que il le soupçonnait, je sais pas quoi, d'avoir pris de la laine ou, enfin bon, ça a l'air du délire complet, mais c'est possible que la seule leçon qu'on puisse apprendre, c'est qu'en vérité, tout leader doit savoir que il doit donner des comptes. Il n'est jamais, personne n'est au-dessus de donner des comptes. Même si on ne peut pas te soupçonner, mais il donne des comptes quand même. La paracha, elle commence. Elle est accoudée à Mishkan, Mishkan Haedut, Asher Pukad Alpi Moshe, Avodat Alvim, Biyadi Tamar Ben Aaron HaKohen. Le responsable, Vim, c'était un fils de Itamar, le fils de, un des fils d'Aaron. Et le grand responsable, c'est Bessalel. Et dans le deuxième verset, tout de suite, on nous dit, Ubetsalel, Ben Uri, Ben Hur, le Matei Yehuda. Tout ça, on le sait, n'est-ce pas? On sait que Bessalel, il est Ben Uri, Ben Hur, le Matei Yehuda. À ça, et kol asher tziva Hashem et Moshe. Il a fait tout ce que Hashem a ordonné à Moshe. Alors, si vous étiez Rashi, vous auriez posé une question. Et Rashi pose la question, il dit, ce verset, il est un peu étrange. Le verset dit que Betzalel, ce qu'il a fait, c'est ce qu'Hashem a dit à Moshe. Et on aurait dû dire, Betzalel, il a fait ce que Moshe lui a dit de faire. Betzalel, il n'y avait pas, a priori, d'audience particulière d'Hachem, où Hachem lui a dit ce qu'il devait faire. Il a fait ce que, a priori, Moshe lui avait dit de faire. Alors, Rashi explique longuement. Il dit que on veut nous dire par là ici que Afilu Dvarim, Shelo Amar Lo Rabo, il a fait même des choses que qu'Hachem avait dites à Moshe Rabbeinu, mais que Moshe Rabbeinu, son maître, le maître de Betsalel, ne lui avait pas dit. Et donc il a pris des initiatives. Il se trouve, ce qu'on vient de nous dire ici, que les initiatives que Betzalel a prises sont conformes à ce qu'Hachem avait dit à Moshe, bien que Moshe ne lui ait pas dit. Iskima dato le ma shenemar le Moshe Bessinaï. Et alors, pourquoi c'est il a fait des choses que Moshe ne lui avait pas dites, il a même fait des choses contraires à ce que Moshe lui avait dit. Qui Moshe, si va le Betzalel, la sot trila, kelim, ve'achaka, mishkan. Moshe, il avait dit à Betzalel, il fallait d'abord fabriquer le mobilier et les ustensiles qui vont être dans le Mishkan, et après seulement la tente, le Mishkan. Ça, c'est ce que Moshe avait dit à Betsalel. Et alors, Bezalel avait dit à Moshe, il a dit, mais c'est pas possible. Donc, le minhag, c'est qu'on fait d'abord l'enveloppe, d'abord la maison, puis ensuite le mobilier et les kelim. Et donc, on a une drôle de situation, c'est-à-dire, Moshe lui dit, Hachem, en théorie, Hachem m'a dit de dire ça. Et Betzalel lui dit, moi, le minhag du monde, c'est pas comme ça. Depuis quand on répond à un ordre d'Hachem en disant, le minhag des gens, c'est pas comme ça. C'est quoi comme réponse? Et alors, ce qui est encore pire, c'est que Moshe Rabbeinu, finalement, quand Betzalel lui dit ça, il lui dit, ah, ben c'est très bien, t'as raison. C'est ce qu'Hachem m'avait dit. Je m'avais dit. Et il lui dit, en fait, ça veut dire que, en réalité, Bezalel a eu une espèce de Ruach HaKodesh qui lui a permis de faire ce que, enfin, même de dire maintenant ce qu'Hachem avait vraiment dit à Moshe Rabbeinu. Alors Moshe lui a dit, Betzel Kel Aïta. Son nom, Betzalel, si on lit, c'est Betzel Kel. Tu étais à l'ombre de Kel, du Dieu. Donc c'est, tu as entendu, c'est comme si on disait, tu as entendu ce qu'Hachem m'a dit, quoi. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Kenasa, Amishkan, Trila, et les Kélim après. Alors, ce que je vais raconter ce soir, j'ai entendu pratiquement ça déjà de plusieurs endroits, mais je l'ai trouvé très bien dit, très bien écrit, dans un sefer qui a été écrit par Rabbi Gabriel Ittach, qui a enseigné au Rinci, puis ensuite à Strasbourg, et qui est maintenant en Eretz Israël. Alors, et le problème, c'est, d'abord, première question, est-ce que parce que c'est le minhag, on va changer les ordres d'Hachem, on va obéir au minhag plutôt qu'obéir à Hachem? Ensuite, que Moshe se rallie à ce minhag, alors qu'a priori, c'est pas ça qu'il a entendu. Et quand on lui dit ça, il dit, mais c'est ce que j'ai entendu. Mais alors, si c'est ce que tu as entendu, pourquoi tu as changé? Pourquoi tu n'as pas dit à Betsalel ce que tu avais vraiment entendu? Et tu dis, que j'avais entendu, c'est d'abord le Mishkan et après les Kélim. Pourquoi tu dis à Betzalel qu'il faut faire le contraire? En vérité, dans Parashat Truma, qui est la première paracha qui parlait de Mishkan, Hachem a dit, faut faire le Aaron et les Kélim d'abord. Et après seulement le Mishkan. C'est juste dans Kitissa et dans Vayakhel, alors il y a des ordres de le faire dans l'autre, à l'inverse. D'abord le Mishkan et après le. Et après les Kélim. Alors, a priori, la source de Rashi, c'est Gemara dans Masechet Brachot, Daf Nun He, qui dit que Moshe a dit Kélim d'abord et Betzalel a dit Mishkan d'abord. Ça, c'est la Gemara, et c'est ce que Rashi dit. Mais il y a un Midrash Rabba, dans Shmot Rabba, qui dit, Ata motse besha she amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe ase Mishkan. Quand Hachem a dit, pour la première fois à Moshe Rabbeinu, fais un Mishkan, fais ce temple en kit, etc., cette résidence. Bavé Amar le Betsalel, alors il est allé, Moshe est allé le dire à Betsalel, et Betsalel a demandé, c'est quoi ce Mishkan? Quelle est la fonction de ce Mishkan? Alors il lui a dit deux choses. La présence divine va résider dans ce Mishkan. C'est premièrement. Et deuxièmement, c'est dans ce Mishkan que les Bnei Israël vont recevoir la Torah, c'est-à-dire on va leur enseigner la Torah à partir de ce Mishkan. Comme vous savez, Moshe Rabbeinu qui enseigne la Torah aux Bnei Israël, bien sûr, Hachem lui parle. Où est-ce qu'il lui parle? Il lui parle dans le Mishkan. Et vous vous souvenez, on avait enseigné que la voix que Moshe entendait, elle semble venir d'entre les Kérouvim. Sur le Aaron, il y a les Kérouvim. Et la voix a l'air de venir d'entre les deux Kérouvim. Moshe, il n'est pas du côté des Kérouvim. Hein? Moshe, il n'est pas dans le code des Shakodashim. Moshe, il est de l'autre côté. Mais il comprend qu'elle vient d'entre les Kérouvim. Donc, il y a deux fonctions du Mishkan. Être une résidence pour Hachem. Bien que la résidence essentielle qu'Hachem ait demandée, ce soit dans le cœur de chacun. Néanmoins, le Mishkan est un rappel ou une aide pour se rappeler qu'il faut vérifier que Hachem réside bien dans mon cœur. Alors, Betzalel a dit, quand Moshe lui a expliqué ça, Betzalel a dit, mais où est-ce que la Torah est donnée? D'où elle vient la Torah? Alors, il lui a dit, voilà, quand on va faire le Mishkan, on va faire le Aaron, on va faire la boîte, l'arche, la boîte, dans laquelle il y aura les louchot, sur lesquelles, couvercle desquelles, de laquelle il y aura les Kérouvim. Alors, là-dessus, Betzalel a dit, Rabbeinu Moshe, c'est pas le kavod de la Torah de faire d'abord le Mishkan et après seulement la Torah. Si l'essentiel de ce Mishkan, c'est quoi? Le cœur du Mishkan, C'est quoi? C'est le Aaron. On va voir ce que c'est vraiment que ce Aaron. Et après, okay, on va mettre un Mishkan pour protéger le Aaron, ou pour entourer le Aaron, ou pour permettre, pour définir un espace de proximité du Aaron. Alors il lui a dit, on va faire le contraire, on va faire d'abord le Aaron, et après on fera le Mishkan. Et c'est parce que Betzalel a parlé pour le kavod du Aaron, que la Torah dit que c'est Betzalel qui a fait le Aaron. Le pasouk dit effectivement, Vayas Betzalel et Aaron. Betzalel a fait le Aaron. Les boîtes là, en or, en bois et en or, c'est Bessalé qui dit. Donc on voit ici, dans ce Midrash, en fait, exactement le contraire de ce qui est écrit dans la Gemara. Et la Tana, l'argument de Bessalel qui va demander, mais si je fais les kélim d'abord, où est-ce que je vais les stocker pour les protéger? Ils sont faits, c'est ouvert à tous les vents, quoi. Il n'y a pas de... Minagaolam, c'est qu'on fait d'abord la maison, puis ensuite on sait où on va stocker les... On va mettre le mobilier et les ustensiles. Donc l'explication que on va essayer de donner, la voilà. Dans la paracha de Trouma, donc la première qui parle de cela, Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu, effectivement, de faire d'abord les Kélim et après le Mishkan. Puisque, pourquoi? Parce que dans la paracha de Trouma, ce dont on parle, c'est du projet. Ce sont des directives. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire les kélim d'abord? Parce que si on construit une tente, comme l'est le Mishkan, la tente, la boîte, l'enveloppe extérieure. C'est une tente comme les autres. Elle n'a rien de... C'est pas un Mishkan. Qu'est-ce qui va faire de cette tente un Mishkan? C'est justement le mobilier et les kélim. Donc l'essentiel, c'est donc le mobilier et les kélim. C'est eux qui vont donner sa dimension de Mishkan à ce qui, par ailleurs, serait simplement une tente comme une autre. Donc, mon cher Rabbeinu, quand il dit à Bessalel le programme d'Hachem concernant ce Mishkan, il lui dit ben, d'abord les Kélim, parce que c'est ça qui va faire de cette tente un Mishkan. Alors quand Betzalel dit, mais d'ordinaire, on construit d'abord la maison et après les kélim, après le mobilier et les kélim. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait les choses de cette manière-là? Alors la question c'est, bien sûr, les maisons, elles se font comme ça. Mais a priori, le Mishkan, dans la mesure où il est une résidence pour Hachem, ça veut dire qu'il est une image en petit de ce qui est la résidence d'Hachem, c'est-à-dire le monde. Quand Hachem a créé un monde pour y être, pour être dans ce monde et y être reconnu comme Melech, etc. Donc, le Mishkan, il doit être à l'image du monde. Et donc, non seulement la structure doit être à l'image de la structure du monde, c'est ce qu'on dit quand on dit que Bezalel savait mettre bout à bout les lettres avec lesquelles on a créé le monde. Et c'est avec cette mise bout à bout des lettres, fabrication de ces mots ou de ces lignes de lettres, c'est ça qui a permis de construire le Mishkan. Mais en plus, si on veut que la structure doit être la même, mais aussi peut-être l'ordre dans lequel les choses ont été faites. Or, lors de la création du monde, Hachem a d'abord créé le monde, il a créé le ciel et la terre, et ensuite il a créé le contenant, si on veut parler comme ça. Il a créé le reste, ce qui allait être dans. Et donc là, on voit bien, quand il dit Minagaolam, c'est pas seulement, c'est Minagaolam, ça veut dire quand tu as créé le monde, toi-même, tu as fait comme ça. Tu n'as pas créé d'abord l'homme, disons, si on pense que l'homme était le but de la création, pas créé l'homme et même les ustensiles, le mobilier du monde, en quelque sorte, tu as créé d'abord la maison. Donc le Mishkan, qui est à l'image du monde, doit être aussi créé de cette manière-là. D'abord la maison, et après le mobilier et les ustensiles. À cela répond, Moshe Rabbeinu nous répond, Kach shamati mipi HaKadosh Baruch Hu. C'est ça que j'ai entendu de la bouche d'Hachem, c'est-à-dire, j'ai entendu qu'il fallait construire le Mishkan d'abord et les Kélim après. Nous, on a l'impression que dans ce dialogue, quelque sorte, c'est Moshe qui parle et qui, quand il dit, c'est ce que j'ai entendu d'Hachem, c'est Moshe qui parle. A priori, c'est comme ça qu'on a lu. Alors, il y a une difficulté dans cette lecture-là, c'est que juste après cela, juste après qu'il ait dit, Moshe ait dit, c'est ce que j'ai entendu d'Hachem, c'est marqué, Amar lo Moshe. Moshe lui a dit, Betzel kel haïta. Problème, c'est que si jusque-là c'était Moshe qui parlait, pourquoi le texte dit Amar lo Moshe? Si tu dis Amar lo Moshe, ça veut dire que jusque-là c'est pas Moshe qui parlait. Donc celui qui a dit Betzel kel haïta, c'est pas Moshe. Alors c'est qui dit ça? C'est-à-dire, c'est pas Betzelkel, mais il lui dit, Kach shamati mipi HaKadosh Baruch Hu, excusez-moi. Quand il a dit, c'est comme ça que j'ai entendu Hachem, c'est pas Moshe qui parle là. C'est Betzalel qui dit ça. Et c'est parce que Betzalel le dit, j'ai entendu, là-dessus, ça veut dire, bon, en français, ça veut dire il avait Ruach HaKodesh. Mais comment il a entendu ça? Il a entendu parce que juste après, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Vasuli Migdash Veshachanti Betocham, ils me feront un Migdash, un sanctuaire, je résiderai parmi eux, que Chol Asher Ani Mare, Otcha, et Tavnit Am Mishkan, Ve Tavnit Kol Kelav, Vechen Ta'asu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en ce qui concerne la Asiya, le Chen Ta'asu, effectivement, L'ordre, c'est d'abord Mishkan et après les Kélim. C'est ça que Bezalel a entendu. Il a entendu la fin de la conversation quand Hachem lui a dit, quand Hachem a dit à Moshe, vous ferez le Mishkan et puis après, comme je te montre, parce que vous savez, il y a ce Midrash qui dit que Moshe, il n'arrivait pas à s'imaginer qu'il puisse construire un Mishkan. Hachem lui a montré un Mishkan de feu, comme il lui a montré la menorah, le feu, etc. Il lui a montré le Mishkan et les Kélim, tout ça, il lui a montré dans le ciel en feu, quoi. C'est ça qu'il lui dit, pour ça qu'il lui dit que Chol Asher Ani Mareh Otra, comme je te le montre. Je te montre le Mishkan, et après je te montre le Kelim. Le Chenta Asu, vous ferez comme ça. Et c'est pour ça que Moshe lui dit, je vois que tu étais à l'ombre d'Hachem. Parce que tu étais là, tu as entendu toi-même. C'est pas, tu as trouvé comme Rashi a l'air de dire, par Ruach HaKodesh, tu as eu la même idée qu'Hachem, si on peut parler comme ça. Non, tu as entendu Hachem, effectivement. Donc ça veut dire quoi? Que Moshe n'a jamais dit. Il n'a jamais changé la parole d'Hachem. Quand il l'a dit, il a dit la parole d'Hachem à Bezalel, il ne lui parlait pas de la Assia, dans Trouma on ne parle pas de la Assia. En Trouma, c'est les directives, c'est le principe, c'est le principe de voilà. Concrètement, c'est dans Vayakhel Pekoudé que concrètement on parle du Mishkan concret. Dans la Asiya. Alors là, dans la Asiya, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment d'abord le Mishkan. Donc c'est pas par parce que le monde a l'habitude de faire comme ça que Moshe Rabbeinu se serait rallié à ce qu'a dit Bezalel. Moshe savait que quand on en arriverait à réaliser concrètement le Mishkan, il y aura un ordre qui est qu'effectivement, quand on a un projet, ben on dit l'essentiel, mais c'est quand on expose le projet, on n'est pas en train d'exposer l'ordre dans lequel les choses vont se dérouler. L'ordre, il dépend des délais de livraison, il dépend de conditions atmosphériques, il peut dépendre de toutes sortes de choses. Là, en l'occurrence, ce n'était pas ça le problème. C'est le problème, c'est que effectivement, il faut bien les stocker, le mobilier les kélim. Donc, c'est sûr qu'il faut faire d'abord. Et puis, c'est le modèle de construction du monde. Le monde a été construit de cette manière-là. Voilà. Mais maintenant, il nous reste à essayer de comprendre ce fameux Midrash. Le Midrash qui ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on a dit. Midrash, il dit autrement. Jusqu'à présent, on a parlé toujours du Mishkan. De la tente, du mobilier et des ustensiles. Le Midrash, il parle de la lumière. Il parle du Haron. Il parle pas des autres Kélim d'ailleurs. Il parle pas du reste du mobilier et des Kélim. Mais voilà le Midrash. Ce Midrash, c'est une discussion, en fait, sur cette question-là. Il y a une discussion entre Bezalel et mon cher Rabbeinu. Et le Midrash, il est comme ça. Shal, Rabbi Shimon ben Yosdak, et Rabbi Shmuel bar Nachman. אמר לו, בשביל ששמעתי עליך שאתה בעל אגדה, alors je te pose la question, mais han nivrat ha'ora, ha'or. D'où est-ce que la lumière a été créée? J'ai entendu que tu es un spécialiste de la Haggadah. C'est pour ça que je te pose à toi cette question. Mais d'où la lumière a-t-elle été créée? Alors il lui a répondu, Nitatef Hakadosh Baruch Hu ke Salma, Veivi Kaolam Mizivo, Merosho Veatsofo. Comme c'est marqué dans Tehilim, Ote Or Ka Salma. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu s'est enveloppé de lumière comme d'une robe, comme d'une enveloppe. Une enveloppe en lumière. C'est ça qu'il lui a répondu. C'est de là que vient la lumière. Voilà, ça c'est le Midrash. Alors, bien sûr, on a une question. C'est une drôle de question qu'il pose. D'où vient la lumière? Je veux dire quoi? Il y a un passouk. Yomer Elohim, Yehi Or, Vahi Or. C'est la question. C'est-à-dire, celui qui a créé le monde, il a créé la lumière. Bah, il faut comprendre. Il ne se pose pas des questions triviales, la famille. Bon. Alors, il y a d'abord quelque chose qu'on a déjà vu de nombreuses fois. Chazal disent, ben, Sarah Mahamarot Nivra Haolam. De même qu'il y a Aseret Adibrot, il y a aussi Asara Mahamarot. C'est les paroles plus douces que les Dibrot, qui sont les paroles dures de Aseret Adibrot. Mais la création du monde, elle s'est faite avec 10 paroles. Qu'est-ce que c'est qu'une parole? Un Mahamar, c'est le mot Vayomer. C'est écrit dans le récit de Bereshit. Vayomer Elohim Yehi Or, Vayomer Katshe Haaretz, Vayomer Hashem a donné l'ordre de que les eaux pullulent et produisent des poissons, etc. Il y a 10 fois marqué Vayomer. OK, c'est ça. Et de façon parallèle, il y a 10 fois marqué Vaidaber, enfin, il y a 10 paroles, pardon, marqué Vaidaber, mais il y a 10 paroles divines. Le problème, c'est que la Gemara dans Rosh Hashanah, elle a compté. Elle a dit, ben, il n'y en a pas 10, il n'y en a que 9. Alors, pourquoi tu appelles ça 10? Je n'ai pas compté jusqu'à 10. La Gemara répond, Bereshit Nami Ma'amaru. Bereshit doit être considéré comme un équivalent de Vayomer. Très bien. Encore. Alors maintenant, la question, elle est un petit peu différente. Puisque Bereshit est équivalent à Vayomer, donc pourquoi t'as écrit Bereshit? Écris Vayomer. Alors, la réponse, elle est relativement simple. C'est que quand on dit Vayomer, il a dit, c'est Hachem a dit, Ça implique le dire est un dire adressé à. C'est un dire qui émane, si on peut parler comme ça, d'Hachem, et qui est dirigé vers quelqu'un ou quelque chose, un récepteur. Et on ne peut utiliser le mot Vayomer que s'il y a un récepteur. Comme c'est le cas dans les 9 paroles. C'est marqué Vayomer Tatché Haaretz, que la terre produise, disons, du gazon. Vayomer Elohim Ishretsu Hamaim, que les eaux pullulent et produisent. Donc, il s'adresse à la terre, Haaretz, s'adresse aux eaux. Dans Bereshit, il n'y a personne qui puisse jouer le rôle de récepteur. On ne veut pas dire Vayomer. À qui est-ce qu'Hachem va ordonner de produire Shamaim Vaharetz? C'est pour ça qu'on peut parler seulement de Bereshit. Et c'est ça la question de Rabbi Shimon bar Yitzhak. Il lui dit, mais si dans la lumière c'est marqué Vayomer, alors je suis en droit de demander à qui s'adresse l'ordre de Yehi Or. Comme l'ordre s'adresse à la terre pour qu'elle produise le gazon, aux eaux pour qu'elles produisent les poissons, etc. Ben, à qui s'adresse le Vayomer Yehi Or? Il faut qu'il s'adresse à quelque chose. Puisque quand ça ne peut pas s'adresser, tu écris Bereshit. Or, ce n'est pas possible. Il y a personne. C'est pas possible non plus parce que la lumière, elle vient d'Hachem lui-même. D'ailleurs, on se permet de dire d'Hachem qu'il est Or Ein Sof, la lumière infinie, où on dit Beorcha Nirei Or. Et si tu veux dire, mais peut-être ce qui a été créé avant, c'est-à-dire Shamaim Vaharetz, peut-être que ça s'adresse à Shamaim Vaharetz, que Shamaim Vaharetz produise la lumière. Alors ça, c'est pas possible non plus. Pourquoi? Parce que Shamaim Vaharetz n'ont pas la force de produire la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière, elle est plus spirituelle que Shamaim Vaharetz. Presque de la physique. Shamaim Vaharetz, c'est des atomes, quoi. L'autre, c'est des photons. Donc, le plus spirituel ne peut pas être produit par quelque chose qui est moins spirituel que lui. Ça descend toujours, ça ne monte pas. Alors en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de la lumière. Il est plus spirituel, bien sûr, que la lumière. Et pourquoi est-ce qu'on se permet quand on parle d'Hachem, permet de dire qu'il est Or En Sof ou bien Beorcha Nirei Or? C'est parce que dans le langage des humains, il n'y a rien de plus spirituel que la lumière. On n'a pas de mots. Alors on se permet bien savoir que c'est une mauvaise approximation, c'est C'est interdit, mais on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas en parler autrement. Donc on fait comme si, bon, il est le top niveau de la spiritualité, mais il est bien plus que ça. Seulement, il n'existe pas de mots pour décrire au-dessus de ça, puisque c'est le divin, en fait. Comme la pensée ne peut pas saisir quoi que ce soit de Rohit Bara, pour cette raison, on n'a rien le droit de dire de lui. Et quand on veut quand même parler, alors on dit or. Alors, quelle est l'image? Alors, comment on va faire pour dire que Hachem s'adresse à quelque chose pour que quelque chose produisent la lumière. On a dit que la lumière, c'est en fait un vêtement d'Hachem. Il y a plusieurs vêtements d'Hachem. Tous les Erev Shabbat, dans Shir Shel Yom de Yom HaShishi, on parle d'un vêtement d'Hachem qui s'appelle Gaava, qui s'appelle orgueil. L'orgueil, c'est aussi un vêtement d'Hachem. La lumière, c'est un vêtement, l'orgueil, c'est un vêtement, etc. Bon. Donc, quand on dit que la lumière est un vêtement, on a dit, Akadosh Baruch Hu, c'est revêtu d'un vêtement de lumière comme d'une robe, comme d'un grand vêtement, comme une enveloppe, si vous voulez. Donc, quand il a voulu créer la lumière, c'est à ce vêtement-là, si on peut parler comme ça, ce vêtement qui n'est pas Hachem, c'est pas, la lumière n'est pas une partie d'Hachem, c'est un vêtement d'Hachem. Donc, il y a évidemment, même les vêtements. On voit par exemple dans les halakhot de Tzara'at, il y a trois enveloppes du corps humain. Il y a la peau, il y a les vêtements, et il y a la maison. Et sur chacune de ces trois niveaux-là, il peut y avoir du Tzara'at, il peut y avoir de cette touma qu'on appelle Tzara'at ou la lèpre. Donc, c'est le vêtement, c'est pas une peau au sens où elle ferait partie du corps. La lumière n'est pas une partie de la divinité. Mais et cette lumière-là qui est infinie, etc., Hachem a donné l'ordre de produire la lumière. C'est-à-dire, répands-toi partout. Au lieu de rester simplement comme ça, répands-toi. Comme ça, il y aura de la lumière dans le monde entier. C'est pour ça que il y a une marloquette au niveau des Tanaïm. Qu'est-ce qui a été créé d'abord? C'est-à-dire Shamaïm va-Aretz ou bien la lumière? Rashi, on parle dans le récit, on parle de ça. Donc maintenant, si on revient à notre sujet, c'est vrai que... Pardon. C'est vrai qu'il faut faire d'abord la maison et après le mobilier. Kélim, comme lors de la création du monde. Mais la lumière n'est pas seulement quelque chose qui illumine. Le or dont on parle, cette lumière-là, elle inclut toute l'énergie du monde. Elle inclut la Torah. La Torah. Sans cette lumière, énergie, Torah, rien ne peut exister. Rien de matériel ne peut exister sans cette énergie-là. C'est ce que Ramban appelle Koharaiouli, ce terme grec-là. Et au départ, Akadosh Baruch Hu, d'après ça, il a donc bien créé la lumière, l'énergie, la Torah. Et Betzalel dit, comprend le, il dit voilà, que même si effectivement, il faut construire la maison d'abord. Mais la maison, elle ne peut pas exister sans le haron. Le haron, ce n'est pas un élément du mobilier. Le haron, il représente la lumière dans le monde. C'est-à-dire, ce qui représente la lumière qui a été créée, qui est à la fois l'énergie, la Torah, etc., c'est représenté dans le mini-monde qu'est le Mishkan par le Aaron. De la même manière que la lumière, c'est quelque chose qui potentiellement, comme on le dit sur l'énergie, que l'énergie de départ, puis ensuite elle se dégrade de toutes sortes de manières, la Torah, c'est le Aaron, c'est la base. Mais vous savez, le Aaron, une fois qu'on l'a mis dans le, une fois qu'on l'a fabriqué et qu'on y a mis ce qui devait y être, c'est-à-dire les loufots et le Sefer Torah, etc., on n'a plus jamais ouvert. Personne n'a jamais regardé ce qui se passait à l'intérieur du Aaron. Aaron HaKohen, quand il entrait à Yom Kippour, il était tout seul, mais il n'ouvrait pas le haron. Il priait, il se prosternait. C'est-à-dire que le haron, en quelque sorte, il est vraiment presque une espèce de potentialité. Tout dérive de ça, tout dérive de la Torah. Tout le monde matériel dérive de l'énergie qu'Hachem a mise dans le monde. Tout dérive. Donc, dans le mini-monde en question, le centre, le cœur de tout ça, c'est le Haron. Le Haron représente la lumière en question. C'est en cela que le Haron, c'est ce qui contient la Torah, c'est la Torah, quelque part. Il y a plus ensuite de différence entre le Haron, la Torah, etc., les Kouvim. Tout ça, ça forme un tout. Et c'est pour ça que ce qui a été créé, c'est d'abord le Haron. Et après, la maison. Mais pas le Aaron et tous les Kélim, seulement le Aaron. Et mon cher Rabbeinu était d'accord. Donc c'est ça qu'il faut. C'est ça qui est en cause ici dans ce problème entre Bessalel et mon cher Rabbeinu. Ça se complète, si vous voulez. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce point-là, Migdash, Kélim. On va toucher un deuxième point, toujours. On va parler du problème du cuivre. Dans le chapitre La Maîtresse, 38, dans les versets 29-30, regardez bien. Le passage dit: Une rochette atnoufa, 70 kikar, valpaim varba meot shekel, vayas ba et adne et achoel moed, et mizbach anochoshet, mirbar anochoshet, asher lo, vet kol klea mizbeach. Donc la Torah nous dit ce qu'on a fait du cuivre qui a été collecté. Ce qui est curieux, c'est que dans cette énumération, il manque quelque chose d'extrêmement important qui est en cuivre, qui est le kiyor, le canot, cette espèce de bassine là. C'était fait en cuivre aussi. Au passage que la mettait, la mettait. Marqué est Mizbach anochoshet, vet mirbar anochoshet, asher lo vet badav, vet kol kelav, vet kior, vet kol kano. Le mirbar. On dit à chaque fois qu'ils sont faits en cuivre. Sur le kior et le canot, on ne met pas l'accent que c'était en cuivre. Mais bien sûr, ils sont en cuivre. Rashi dans Parshat Vayakhel, sur le passouk qui dit Vayas et Hakior nechoshet vetr. Canon de Rochette, Bemarot Hatovot, Asher Savu, Petachoel Moed. Lui, il répond donc à la question. Il dit que il y a une différence entre tous les ustensiles qui sont faits en cuivre. Et le kior, qui est aussi fait en cuivre. C'est l'ensemble des kélim, l'ensemble des ustensiles, a été fait avec le cuivre que les Bnei Israël ont donné. Et on a fait fondre ce cuivre, on a travaillé, on en a fait des kélim. Alors que le kior et le canot n'a pas été fait avec le cuivre qui a été donné, mais ça a été fait avec les miroirs, les miroirs des femmes en Égypte. Le miroir, c'était du cuivre poli. C'est avec ces miroirs-là que les femmes des Bnei Israël se sont maquillées, fardées, etc. Et elles ont décidé de donner cela, de donner ces miroirs pour en faire ce qu'il y a, justement. On n'a pas eu besoin de fondre, etc. Tout ça. C'est pour ça que ce cuivre-là n'a pas été mélangé avec le cuivre donné par ailleurs. Et Rashi, il explique que Moshe Rabbeinu avait des doutes. Moshe Rabbeinu ne savait pas est-ce qu'on pouvait accepter ces miroirs qui ont servi à séduire, qui ont servi aux femmes à séduire leur mari. Il faut se souvenir, les Bnei Israël en Égypte, ils avaient baissé les bras. Et ce sont les femmes qui sont allées les chercher quasiment. Et pour ce faire, elles ont utilisé ces miroirs, etc. Le Midrash raconte que c'était l'objet d'un jeu. Est-ce qu'on se voit? Est-ce que je suis plus beau, plus belle, etc. Toute une histoire pour sortir les hommes de leur torpeur et pour assurer la pérennité de l'espèce, en fait. Sinon, il y avait plus de. L'Israël ne se serait pas construit. Le peuple d'Israël est la résultante de la stratégie des femmes avec ces miroirs. Donc Moshe se demandait qu'on peut prendre des miroirs qui ont servi à la séduction, etc., pour en faire quelque chose qui va être dans le Mishkan, qui va jouer un rôle tellement important. Purification, etc. Et Hachem lui a répondu quand il a posé cette question. Hachem lui a dit, accepte, parce que ça, pour moi, c'est plus précieux que tout le reste. Chavivin alai minakol, shaliyedehen emidu. Anashim, grâce à ça, les femmes, elles ont établi les armées. Tivot bnei Israël b'Mitzrayim. On va en faire un kiosque. C'est Rashi qui ramène ça. Ça, c'est la chita de Rashi. Rashi dit donc, Hachem a dit à Moshe, pour moi, c'est plus précieux que le reste. Pourquoi? Parce que ça a servi à fabriquer le clan d'Israël. C'est bien gentil d'avoir des idées, mais il faut un peuple. S'il y a un peuple, c'est grâce à elle. Et donc ces miroirs ont été le symbole, en quelque sorte, de la démarche des femmes pour sauver le clan d'Israël, pour faire en sorte que le clan Israël existe. Rabbi Avraham ibn Ezra, sur ce verset, lui, il donne son explication du pourquoi on a accepté ces miroirs pour en faire du kiyor. Et il dit, Shayoub Israël Nashim, Ovdot Hashem. Il y avait dans le clan d'Israël des femmes qui voulaient servir Hachem. Shesaru mi taavot ze haolam. Des femmes qui se sont détachées des jouissances de ce monde. Venatnu marotehen nedava. Ki en laem sorechod les tiafot. Elles ne voulaient plus se maquiller, se rendre belles, etc. Donc elles n'avaient plus l'usage de ces miroirs. C'est ça qu'elles ont donné. Des miroirs qu'elles ne voulaient plus utiliser parce que elles voulaient, en quelque sorte, sortir du monde, au sens de ne plus jouer le jeu du monde matériel. Voulaient s'éloigner de toutes les jouissances du monde. Ça, c'est Rabbi Avraham Ibn Ezra, en Espagne. Le Sforno, c'est l'Italie. Il dit, Otan anashim ma'asu inyane tarshitehen Ces femmes, elles ont méprisé, elles ont été dégoûtées en quelque sorte de toute cette histoire de bijoux, de colifichets, etc. Vigdishu marotehen le horot. Elles ont été magdish, ça. On l'a donné à Ekdesh, on l'a pour que on en fasse quelque chose dans lui. Parce qu'elles n'en avaient plus l'usage. A priori, Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra et Sforno, ils sont en opposition avec Rashi. Rashi dit au nom d'Hachem que c'est parce que ça a servi à séduire que c'est précieux pour lui. Et Ibn Ezra et Sforno, ils disent, c'est parce que ces femmes-là, elles ont arrêté de s'occuper de ces questions matérielles, de cette jouissance matérielle. C'est pour ça qu'elles l'ont donné. Faut comprendre que si l'explication de Rabbi Avraham Ibn Ezra et Sforno, en fait, si on les prend comme ça, est-ce qu'elles ne sont pas en contradiction avec une takana d'Ezra? Ezra, au moment du retour d'Ibn Israël après l'histoire de Pourim, quoi, après l'exil de Perse, ils reviennent et Ezra leur enseigne la Torah, leur apprend l'hébreu, etc. Et il a fait une suite de takanot. Il a arrangé les choses, il a pris des mesures, et une des mesures qu'il a prises, c'est de permettre à des colporteurs, c'est-à-dire des vendeurs itinérants, d'aller de ville en ville pour vendre des colifichets aux femmes. Pourquoi? Pour que les femmes se parent avec ces bijoux-là, de fantaisie ou pas, et bon, et pour que elles soient agréables pour leur mari. Et il l'a permis, bien que ça pose des problèmes, parce que ces gens-là, souvent ils arrivaient dans les maisons pour vendre leur camelote, et il y avait la femme, elle était toute seule, il n'y avait pas de mari, donc peut-être qu'on risquait des choses avec ça. Ezra a dit, bon, il faut le faire, c'est impératif que les femmes puissent se maquiller, se parer, se bijouter, quoi. C'est comme ça, a priori, Ibn Ezra et Sforno sont en contradiction avec la Takana d'Ezra. Alors, pour essayer de comprendre, on va utiliser un Midrash qui est au tout début du Midrash Rabba sur Shemot. C'est un midrash sur le verset qui dit que Hachem a été appelé, pardon, Hachem a appelé Moshe. Il faut se transporter au moment de ce qu'on appelle le buisson ardent, le fameux buisson là qui brûlait, qui ne se consumait pas. Là, à ce moment-là, pour la première fois de sa vie, Hachem a appelé Moshe. Pour la vie de Moshe, il l'a appelé Moshe. Et c'est là qu'il lui a proposé, enfin qu'il lui a dit que il voulait que Moshe aille sortir les Bnei Israël d'Égypte. Quand Hachem l'a appelé, dans le passage que c'est marqué, Vayomer Hineni. Moshe a dit Hineni. Donc le Midrash dit Vayomer Hineni le Malchut, Hineni la Kehuna. Hineni, ça veut dire je suis prêt à tout. Et donc il a dit je suis prêt à être roi, je suis prêt à être Kohen Gadol. Ça semble un peu compliqué. Moshe Rabbeinu va résister à la demande d'Hachem, à l'ordre d'Hachem pendant une semaine. Pendant une semaine, il va refuser d'aller en Égypte. Et là, le Midrash nous dit qu'il voulait la royauté et la Kehuna. Alors, il faut expliquer que même quand il y a un sujet très très important pour lequel il faut développer des formes d'ambition pour être à la hauteur de ce sujet tellement important. Sans ça, ça va pas, la Avodat Hashem, elle va pas avoir lieu. Et donc, la fameuse anava, la fameuse humilité et modestie de Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'elle est là? Il demande la royauté, je suis prêt à la royauté, à la Kehuna Gdola, oui, on s'en croit. C'est pas contradictoire du tout. Le problème, c'est que il faut savoir qu'est-ce qui se passe au fond de soi-même. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Vers quoi on tend? La royauté, dans la version roi d'Israël, c'est pas la royauté dans la version extérieure, la version des autres. Où le roi est en dessus et le peuple est au service du roi. Le roi qui va prélever des impôts, qui va prélever qui va faire, prendre les enfants pour en faire des soldats, etc. Éventuellement pour sa gloire. La malchoute dans le clan d'Israël, c'est le roi qui est au service du peuple. Il est là pour faire en sorte que le peuple obéisse à Hachem. Il y a rien de plus grand que ça. Mais en même temps, obligatoirement, il va y avoir du kavod, il va y avoir de la gloire, qui vont accompagner cette Malchut et cette royauté, cette Kehuna. Donc il faut savoir, est-ce que la personne, ce qu'elle veut, c'est simplement elle veut le Kavod? Alors la royauté est un moyen d'accéder à ce Kavod. Et par conséquent, éventuellement, on peut même utiliser le service d'Hachem pour arriver au Kavod. C'est un investissement pour le Kavod. Mais comment est-ce qu'un homme saura ce qu'il veut vraiment? Il n'y a qu'une seule façon d'être certain. C'est qu'il faut être capable de refuser. Celui qui veut vraiment les choses pour le bien du clan d'Israël, pour que la Torah d'Hachem soit enseignée et soit pratiquée par le peuple, au fond, ça lui est égal que ce soit par lui ou par un tiers ou par quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est que ça ait lieu. Si effectivement, ça t'est égal, que ce soit par toi ou par quelqu'un d'autre, alors effectivement, tu veux vraiment la chose. Mais sinon, il y a tout lieu de penser que peut-être c'est le kavod et la gloire que tu veux pour ça. Bon, c'est ce que mon cher a fait, il a refusé. Shlachna viati shlach, envoie qui tu veux. Ça ne doit pas être moi. Mais c'est pas, ça ne va pas être moi et je, parce que ce n'est pas un sujet qui m'intéresse. Le sujet m'intéresse au plus haut point. Inéni, mais je suis prêt. À la malchoute, je suis prêt à la kehuna, tout ce que tu voudras. Moi, je suis prêt si c'est ça que tu veux. Mais pour moi, tu envoies n'importe qui d'autre. Ça revient exactement au même. Vous voulez, je crois que je l'ai déjà dit dans un shiur sur le limoud de la Torah. C'est pas qu'il y a une mitzvah, si vous voulez, d'étudier la Torah. C'est que la Torah doit être étudiée. Et je suis en charge de veiller qu'elle soit étudiée. A priori, le premier en question à devoir étudier, c'est moi-même. Mais si pour une raison ou une autre, je ne le peux pas ou je ne peux pas suffisamment, je peux très bien aider quelqu'un d'autre à le faire. L'essentiel, c'est que ça va développer la Torah. Que ce soit moi ou mon voisin ou quelqu'un d'autre, peu importe. Bien sûr que j'ai à me préoccuper de moi, de le faire moi-même dans toute la mesure de mon possible. Mais si c'est pas vraiment possible, eh bien je fais en sorte que quelqu'un d'autre s'en occupe. L'essentiel étant que la Torah soit se diffuse et se agrandisse en fait. Au fond de lui-même, il est prêt à servir. Servir Hachem, servir le peuple d'Hachem. Mais pour être certain, absolument certain, que ce n'est pas une recherche de pouvoir, etc., il refuse. Ça lui coûte d'ailleurs très cher. Parce que, premièrement, la Kehuna, il ne l'aura pas. Et deuxièmement, il ne va même pas entrer en Eretz Israël. Tout ça à cause de ce refus. Le Ramban dit, Mishe Tishlach, Yehadif alay. Le Ramban dit que mon cher Rabbeinu a dit, celui que tu enverras, c'est mieux, pour moi, c'est plus important. Finalement, c'est lui qui doit le faire. Ce sera lui le meilleur chenilleur possible. Ok, d'accord, il va le faire. C'est pas que je ne veux pas le faire. On trouve la même chose. C'est tout ça parce que ça le temps de venir. En ce qui nous concerne, pour revenir à nos histoires de miroir, mon cher Abbé nous se demandait, se disait, il se peut que finalement elles aient aussi visé la jouissance. C'est vrai qu'elles faisaient quelque chose d'extraordinaire pour le clan d'Israël, mais est-ce que la vraie motivation c'était ça ou est-ce que c'était la jouissance qui allait de pair? Auquel cas, ce ne serait pas normal d'utiliser ces miroirs pour en faire le quior. Mais Hachem lui a dit, Tabel, accepte, parce que ça, pour moi, c'est Chavivin alay yoter mikulan. Donc Hachem a témoigné en quelque sorte qu'il n'y avait aucune recherche de jouissance chez elle. Et c'est pas ça leur problème. C'est le Shem Shamaï. Donc elles ont vraiment voulu construire le clan d'Israël, elles l'ont construit. Et la preuve, c'est que quand c'est nécessaire, elles sont prêtes à donner ces miroirs. Celui qui est prêt à donner ça veut dire qu'il le maîtrise. Et donc il peut l'utiliser pour la Kdoucha. Ça qu'Hachem a dit, Chavivin alai yoter mikulan. Pourquoi plus que tout le monde, que les autres? Parce que le peuple a donné. Mais quand tout le monde donne, alors c'est possible. C'est facile de donner, on ne sait pas exactement est-ce qu'on donne parce que tout le monde donne, alors je donne aussi. Donc, chez les Bnei Israël, on n'a pas de test qui nous garantissent que ce qu'ils voulaient, c'était vraiment construire le Mikdash. C'est à la fois, ils veulent en être parce que ils veulent en être pour avoir la gloire de en être. Donc, d'après ça, c'est possible. Que les explications de Ibn Ezra et de Sforno ne sont pas complètement contradictoires avec celles de Rashi. Se complètent. Seul celui qui est capable d'être mevater, de se priver de ses artifices, de ses miroirs, même les mépriser en tant que miroir. Donc, il y a une nécessité de les utiliser pour autre chose. J'ai un chamaï. Donc, cette histoire, peut-être on peut entendre que ce qu'ils disent n'est pas si éloigné de Rachid. Pas exactement la même chose, mais c'est pas la 4C et la 4C. Voilà. Ça s'arrête là.